Dans le cadre des élections régionales 2021 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons invité les 9 listes candidates à ces élections. 4 ont répondu favorablement, ainsi les 5 autres qui concernent donc Madame Gisèle Ternissienne pour Union Essentielle, l'alternative par Monsieur Samuel Arnaud du Parti Socialiste, la région avec toutes ses forces de Monsieur Nicolas Daragon, de Les Républicains, Agir pour ne plus subir de M. Melek Ozer pour les divers gauches et Une région qui vous protège, M. Stéphane Blanchon pour le Rassemblement National, n'ont pas donné suite donc à notre invitation. Ainsi, nous allons écouter successivement Écologie Aura avec M. Olivier Royer. Ensuite, nous entendrons Mme Adèle Kopf pour faire entendre le camp des travailleurs de lutte ouvrière. Ensuite, Mme Célia Delavergne pour la majorité présidentielle slash Auralpes. Et ainsi que M. Olivier Crène pour Ensemble pour notre région et la France insoumise. Bonne écoute. Monsieur Olivier Royer, bonjour.
Bonjour.
Olivier Royer, vous êtes candidat sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour le compte de l'écologie, c'est possible. Donc avec vous comme tête de liste pour le département de la Drôme, avant tout, quel est cet engagement, monsieur Olivier Royer, pour l'écologie et cette candidature et pour la région Rhône-Alpes ?
Donc moi, ça fait longtemps que je suis engagé dans des collectifs, au niveau politique, depuis mon entrée en fait à l'université, où j'ai été syndicaliste étudiant et responsable national de l'UNEF, puis après responsable et élu politique d'abord au PS dans ma prime enfance, et ensuite à partir de 2010 adhérent, puis animateur d'Europe Écologie Les Verts dans l'Isère. Donc c'est quelque chose, c'est un combat qui est pas nouveau. C'est un combat que j'ai commencé même plus jeune en me mobilisant contre la construction de la 51 dans le Trièves, d'où je suis originaire. Puis après, qui a pu continuer sur la coordination de certaines actions entre l'agglomération de Grenoble et les Chambarans quand il y avait le projet de construction du Center Park. Et aujourd'hui, combat que je continue, et à Europe Écologie au niveau départemental, régional et national, puisque je suis conseiller fédéral d'Europe Écologie au niveau national, et puis aussi dans différents collectifs, voilà, les Amis de la Terre, Extinction Rébellion et d'autres.
Alors, à la demande que j'ai faite auprès de vous pour cette émission, je vous ai joint 3 questions concernant le Diois en particulier. La première étant, quelle est votre politique de transport en liaison avec le territoire Diois ?
Eh bien, c'est une question qui m'intéresse particulièrement, puisque il y a 3 ans, j'ai fait partie de ceux qu'on fait émerger le collectif Gare à nous, parce que ces questions de transport, je les ai vécues en arrivant ici, en m'installant sur le Diois il y a 5 ans. J'ai vécu ces difficultés que je n'avais pas quand j'habitais en agglomération. Voilà. Dans l'agglomération de Grenoble, on a plus de 200 arrêts de bus, des horaires qui sont jusqu'à tard la nuit. En arrivant ici, j'avais pas conscience des difficultés de mobilité qu'il y avait quand on habite à Die, mais aussi quand on habite dans les villages et hameaux extérieurs. Et donc, c'est quelque chose qui m'a poussé aussi à m'investir au niveau de ces élections régionales, parce que justement, on a une richesse, c'est qu'on a une ligne de train qui existe dans le Diois. Ce n'est pas le cas de toutes les régions d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, il faut qu'on la sauvegarde, il faut qu'on sauvegarde de la présence humaine. Il faut qu'on puisse continuer à développer les trains et pas les bus sur cette ligne. Et il faut qu'on arrive à avoir plus d'offres de trains malgré cette difficulté qui est que cette ligne est gérée par la région Sud-PACA, puisque c'est une ligne interrégionale. Donc voilà. Et ça, bah, de toute façon, pour la rendre attractive, il faut qu'il y ait plus de trains et que les prix soient plus accessibles aux jeunes et aux personnes en précarité.
Il y a le train, effectivement, les routes et les pistes cyclables. L'accès aux pistes cyclables, c'est une compétence de la région aussi, à vos yeux ?
Ah bah, de fait, la région a des compétences dans le développement touristique, a des compétences avec qui peuvent être complémentaires avec les compétences du département. Donc, on a intérêt à mettre des moyens sur le développement des pistes cyclables, que ce soit pour le tourisme, mais aussi pour les déplacements du quotidien. Pour les déplacements piétons, les déplacements cycles, les déplacements autres, le développement du covoiturage ou de transport solidaire qui viendra en complément des offres de la région, on peut avoir une politique régionale qui est ambitieuse et qui se coordonne bien avec les politiques départementales et des collectivités comme la communauté de communes.
Ensuite, quelle action proposez-vous pour l'environnement, la reconversion en agriculture bio et la préservation des zones naturelles ?
Bah, cette question, elle est vaste. Hein. Notre programme, il est construit autour de la transition écologique. Donc, c'est une politique transversale à mettre en œuvre dans toutes les compétences de la région. Voilà. En soutenant les filières de demain qui permettront de mettre en œuvre cette transition dans la construction, la rénovation, l'isolation des bâtiments, dans le développement des énergies renouvelables, on va contribuer à intervenir positivement sur l'environnement et en intervenant directement sur ce qui émet aujourd'hui des gaz à effet de serre. Pour moi, c'est indispensable, notamment quand on sait qu'à la différence de la planète, qui selon les dernières études a pris en température 1,1 degré de plus depuis l'ère industrielle, dans la vallée de la Drôme, c'est déjà le double. Et on en voit les conséquences et on en subit ces conséquences-là avec un régime de pluie qui a changé, avec des pluies qui tombent plutôt de manière torrentielle, avec des épisodes de sécheresse qui sont très importants, où notre forêt et notre agriculture en souffrent. Et donc, il y a un moment, agir sur l'environnement, c'est aussi c'est agir sur ce qui émet des gaz à effet de serre. Donc, je reviens encore au transport, mais agir sur le développement des transports collectifs qui sont moins impactants que les véhicules individuels, c'est aussi mettre les moyens pour protéger et préserver ce qui aujourd'hui nous permet de nous nourrir et nous permet d'avoir accès à une eau de qualité. C'est pour ça que c'est indispensable de mettre des moyens dans la préservation de nos forêts qui stockent l'eau, qui nous protègent des éboulements et des grosses inondations en ralentissant le ruissellement. Mais c'est aujourd'hui aussi préserver l'environnement en s'appuyant sur les agriculteurs, les paysans qui entretiennent nos vallées et nos montagnes et qui les font vivre. Et aussi aider à l'installation de paysans et paysannes qui développent la bio, les circuits courts pour préserver la biodiversité. Et on peut enfin le faire avec d'autres outils, quoi. Le développement de parcs naturels et chez nous, peut-être, imaginer qu'on puisse aider au développement d'espaces forestiers en libre évolution, qui ne soient pas exploités.
À l'image de la remise à niveau des réaménagements opérés en Auvergne lors de l'union avec la région Rhône-Alpes et dans un contexte égalitaire, quel progrès vous envisageriez pour le Diois au milieu rural vis-à-vis des territoires urbains ?
Bah, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est le transport qui, pour moi, est un élément d'équilibre important pour le territoire et qui est la plus grande compétence de la région pour intervenir sur notre territoire. 1,6 milliard d'euros par an pour les transports. Donc, si on a un système de transport pendulaire sur toute la vallée qui permet de rejoindre facilement la vallée du Rhône, à moindre prix, ça nous éviterait des dépenses et des dangers qui sont liés à l'usage de la voiture individuelle. Et puis, le train pourrait devenir quelque chose de naturel comme transport, ce qui, aujourd'hui, il n'est plus. Parce qu'entre les retards, entre le fait qu'on remplace les trains par des bus, en fait, l'offre est pas attractive pour un certain nombre de clients. Il y a aussi la question du numérique et l'aide au développement de la fibre pour qu'on puisse avoir un accès égalitaire aux ressources numériques sur nos territoires ruraux. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la question de la fibre, elle est intéressante. Et il faut accompagner la politique départementale là-dessus pour peut-être nous éviter demain de voir fleurir des relais 5G dont on sait qu'ils seront très énergivores, dont on ne connaît pas vraiment les impacts sur l'environnement, mais on sait en tout cas une chose sur les impacts dans l'environnement, c'est que ça va de nouveau utiliser des ressources naturelles dont on a besoin pour passer à une xème génération de smartphones dont on n'a pas forcément besoin, quoi. Et pour le DIWA, c'est rénovation des centres anciens. On peut aider à la rénovation énergétique des logements, des bâtiments, pour que ce soit plus agréable à tous. On peut aider à atteindre un objectif de 25% de logements à caractère social de qualité, construits et rénovés dans des normes environnementales ambitieuses. Et ça, la région, elle peut aider les collectivités pour le faire. Et elle peut enfin aider à la formation des artisans qui permettront ça. Parce qu'il y a un moment, c'est les filières d'avenir de la transition qui permettront de faire des économies et de baisser les émissions de CO2, mais qui créeront de l'emploi. Et nous, l'objectif qu'on a pour la région, c'est de créer 100 000 emplois sur la mandature qui soient directement liés à la transition écologique et qui ne soient pas délocalisables.
Qu'est-ce que seraient les premières mesures à prendre justement vis-à-vis de l'écologie et la région ?
Bah, ça montre en tout cas ce fait qu'il y a eu des coupes franches dans les associations, dans le financement des associations historiques environnementales, que le budget de la région, il peut être réorienté et réorienté rapidement sur des petites masses budgétaires, mais qui sont importantes notamment pour la vie associative. Que Laurent Wauquiez ait fait ce choix de confier à d'autres associations que la FRAPNA et les CPIE de confier cet enseignement à l'environnement à ces associations, soit. Moi, ce que je constate, c'est que dans mon travail, ce que je constate, c'est que quand j'interroge mes enfants, j'ai pas vu ces associations intervenir dans le milieu scolaire ou dans le milieu social dans lequel je travaille ici à Die, quoi. Jamais personne est venu me dire on va vous proposer des actions de formation à l'environnement, alors que c'était plutôt le cas avant, quand il y a quelques années, le CPIE du Vercors intervenait dans les classes, quand on avait la FRAPNA qui pouvait permettre de faire de l'éducation à l'environnement dans les centres de loisirs et les écoles. Donc nous, de toute façon, tout le programme tourne autour de la transition. Il faut qu'on ait une politique cohérente, une politique transversale sur ces questions de l'écologie, parce qu'il y a urgence. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagé dans ces élections. C'est qu'il y a urgence à répondre aux défis climatiques et à permettre à ce que notre vallée, elle soit encore viable dans 10, 15, 20 ans et que nos enfants, ils ne manquent pas d'eau, ils ne crèvent pas de chaud. Il faut, je vais être plus précis là-dessus, il faut qu'on mette les moyens de la région à ce que tout soit mis en œuvre, tout ce qu'on peut financer soit financé pour permettre de réduire les impacts du dérèglement climatique.
Olivier Royer, je vous remercie d'être venu nous parler donc de l'écologie, c'est possible, avec Fabienne Grébert en tête de liste pour la région et vous-même donc tête de liste pour le département de la Drôme. Vous avez un site internet, j'imagine, pour trouver votre programme et puis peut-être aussi correspondre.
Oui, le site, il s'appelle appel-aura-écologie.fr. Voilà, il regroupe l'ensemble de nos... Vous y trouverez l'ensemble de nos 120 propositions. Ce site aussi, il présente les différents partenaires de ce pôle écologiste qui a présenté cette liste « L'écologie, c'est possible ». Donc Europe Écologie Les Verts, Génération S, Nouvelle Donne, Génération Écologie. Et puis aussi des mouvements citoyens, Allons Enfants, Place Publique, Transition... Le mouvement des progressistes qui se sont vraiment mis ensemble aussi avec cette notion d'urgence. Et moi, je finirai aussi là-dessus. Je pense que nos territoires ruraux, ils ont besoin d'être représentés dans ce grand élément qu'est la région. Et pour moi, il me semblait important qu'il y ait quelqu'un qui représente la vallée de la Drôme, même si ensuite on est... on est élu pour l'ensemble de la région. Quand je vois le travail qu'a fait Corinne Morel-Darleux ces 6 dernières années, dans le soutien à des initiatives, dans le relais des demandes qu'on pouvait avoir auprès de la région, je pense qu'il est indispensable de pouvoir continuer cette œuvre-là.
Dans le cadre de la campagne des élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes, nous recevons aujourd'hui la candidate de la liste Lutte ouvrière, Madame Adèle Kopf. Bonjour.
Oui, bonjour.
Madame Adèle Kopf, donc Lutte ouvrière, et pour faire entendre aussi le camp des travailleurs.
Oui, c'est ça. Donc la tête de liste pour la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Chantal Gomez. Et moi-même, donc qui est dessinatrice technique là récemment à la retraite, et moi-même donc je suis enseignante et je suis la tête de liste pour la section drômoise, voilà.
Et donc je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs et puis de aussi signifier votre engagement en politique et notamment avec Lutte ouvrière.
Bah donc voilà, moi j'ai 42 ans, je suis enseignante. Moi, je me suis engagée avec Lutte ouvrière parce que je trouve que fondamentalement, la société capitaliste dans laquelle on vit, elle est révoltante, elle est de plus en plus violente contre toute une partie de la population, les inégalités se creusent et finalement, ceux qui font le travail, ceux qui font tourner la société, ceux qui font tout ce qui est utile dans la société, qui font tourner les usines, qui travaillent dans l'agriculture, dans les écoles, dans les hôpitaux, tout le monde du travail, d'ailleurs, qu'ils soient en activité, à la retraite, au chômage, hein, pour nous, quand on dit le camp des travailleurs, c'est à tout ce monde-là qu'on s'adresse, c'est ceux qui font tout ce qui est utile et c'est ceux qui aujourd'hui subissent des reculs de leurs conditions de vie, c'est ceux qui n'ont jamais leur mot à dire, qui sont condamnés à obéir. Donc nous, on présente une liste qui est à l'image du monde du travail, c'est-à-dire qu'elle est composée d'ouvriers, de travailleurs de la santé, de travailleurs de l'éducation, de techniciens, de téléconseillers dans des centres d'appel. Nous, on veut que ça soit les travailleurs eux-mêmes qui prennent la parole, qui fassent entendre leurs exigences, leurs revendications. Et c'est pour ça qu'on présente cette liste aux élections régionales.
Alors, je vous ai adressé, comme à tous les candidats, trois questions en rapport avec le territoire d'Iwa, le canton du d'Iwa notamment. La première étant, quelle est votre politique de transport en liaison sur le territoire, avec le territoire du d'Iwa ?
Alors, moi, je ne crois pas que c'est la région et les politiciens à la tête de la région qui peuvent résoudre les problèmes de transport dans le d'Iwa comme ailleurs. En période électorale, évidemment, c'est la foire aux promesses. Ils font tous plein de belles promesses. Sauf qu'en réalité, les décisions, elles se prennent à un autre niveau. C'est-à-dire que la SNCF, c'est une entreprise qui fait de plus en plus la course à la rentabilité, qui supprime des petites lignes, qui supprime des emplois dans les guichets. Il y a eu une mobilisation là, de la population et des cheminots pour maintenir l'emploi à la gare de Die, qui fait des économies sur l'entretien des TER. Toute cette dégradation des conditions de transport, elle est accompagnée aussi par la région depuis des années. Et moi, je trouve que ce qui se passe au niveau des transports, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe pour l'ensemble des services qui sont indispensables à la vie de la population, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit le logement social. Je sais qu'à Die, la population s'était quand même mobilisée pendant des années pour essayer de maintenir la maternité. Ils avaient réussi à repousser l'échéance, mais finalement, ça a fermé. Tout ça, c'est une logique, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des régions, où en fait, on économise sur les choses qui sont vitales pour la population. Avec la pandémie, on l'a vu encore plus, c'est-à-dire que toutes ces suppressions d'emplois dans les hôpitaux, toutes ces fermetures de lits qui ont été faites par les gouvernements de droite ou de gauche depuis des décennies, c'était criminel et ça a eu des conséquences graves. Et donc, nous, par rapport à tout ça, ce qu'on a envie de dire, c'est que ça montre que ceux qui dirigent dans la société aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de l'État, ceux qui sont à la tête des régions, ils sont irresponsables. Par contre, ceux qui sont responsables, c'est le personnel des hôpitaux, c'est le personnel de la SNCF, c'est la population locale qui se bat pour réclamer ce dont elle a besoin. Et Nous, c'est un petit peu ça qu'on a envie de dire avec notre liste ouvrière, c'est que ça devrait être au monde du travail de diriger la société. Ça devrait être les travailleurs des hôpitaux qui devraient décider combien ils ont besoin de monde pour travailler. Ça devrait être, voilà, il faut qu'on arrête d'être soumis à des institutions qui gouvernent en fonction des intérêts du profit, des intérêts des capitalistes. Aujourd'hui, les décisions, elles sont prises par ceux qui ont l'argent, ceux qui contrôlent les moyens de communication, les usines, les banques, et eux, ils investissent uniquement si ça leur rapporte. Et donc, développer les transports dans les régions rurales, ça ne fait pas partie des choses qui sont intéressantes au niveau rentabilité financière. Et ben, du coup, les populations, elles subissent ça. Donc, nous, on a envie de dire qu'il va falloir qu'on prenne notre sort en main nous-mêmes, les travailleurs, la population, pour imposer d'autres choix.
La deuxième question concerne l'environnement, la reconversion en agriculture bio et la préservation des zones naturelles. Que proposez-vous pour maintenir cet état ?
Alors, moi, là aussi, je pense que dans l'agriculture, il n'y aura pas vraiment de modèle alternatif possible tant que c'est les capitalistes qui ont la main sur le monde agricole. Parce qu'en fait, les agriculteurs, ils sont soumis à la loi du marché. Ils sont obligés de vendre leur production à des grands groupes de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire. Et puis, ils subissent aussi la loi des groupes d'assurance, des banques comme le Crédit Agricole. Alors, nous, on pense que même si formellement, les petits agriculteurs, ils sont indépendants, ils sont à leur compte, en réalité, ils sont eux aussi soumis à la dictature d'une minorité de riches. Voilà, c'est ces riches à la tête des grands groupes qui fixent finalement les prix de vente, le prix des terrains, les taux d'intérêt, la prime d'assurance. Tout ça, les petits agriculteurs, ils décident de rien. D'ailleurs, au passage, même le bio, c'est un business. Aujourd'hui, la grande distribution, tous les rayons bio des supermarchés, des groupes comme Carrefour, comme Auchan, ils s'enrichissent là-dessus. Je me souviens d'une étude de UFC Que Choisir en 2019, qui avait calculé que les grandes surfaces, elles faisaient encore plus de marge sur les fruits et légumes bio que sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, bio ou pas bio, la logique est la même, c'est que ces groupes de la grande distribution, ou de l'agroalimentaire d'ailleurs, ils veulent acheter le moins cher possible aux producteurs et ensuite vendre le plus cher possible aux consommateurs. Nous, c'est cette logique-là qui fait que toute l'économie, elle est organisée pour dégager du profit qu'on a envie de contester. Et je pense que de ce point de vue-là, le combat à mener pour l'agriculture, il rejoint le combat à mener des travailleurs. Et d'ailleurs, au passage, l'agriculture, elle fonctionne aussi grâce à plein d'ouvriers agricoles. Et je tiens à dire au passage qu'il y a beaucoup de travailleurs d'origine étrangère qui font, ils représentent un tiers de la main-d'œuvre saisonnière et que souvent ils sont surexploités, ils ont des horaires à rallonge, des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Et nous, on s'adresse aussi à tous ces travailleurs, que ce soit les petits agriculteurs qui vivent de leur travail, que ce soit ces ouvriers agricoles qui sont aussi exploités par des agriculteurs. C'est les invisibles dont on ne parle jamais et eux, leur combat, c'est le même que celui de tous les travailleurs finalement de l'industrie. Et pour parler quand même un petit peu aussi de l'écologie, de la protection de l'environnement, moi là aussi je trouve qu'aujourd'hui c'est la mode de parler de transition écologique. Les politiciens qui se présentent pour diriger la région, évidemment ils font plein de promesses. Sauf qu'en réalité, là aussi je trouve qu'on ne va pas régler le problème de la pollution de tout notre environnement si on ne remet pas en cause le fait que les décisions aujourd'hui dans l'économie sont prises par des groupes industriels qui raisonnent toujours en fonction de leurs profits. Et on ne s'en sortira pas au niveau de l'avenir de la planète en restant dans cette économie capitaliste. La région, vous savez, aujourd'hui, ils donnent plein d'aides aux entreprises privées, que ce soit des groupes comme Sanofi, comme Michelin, qui suppriment des emplois. Alors, il y a plein de prétextes, ça peut être le développement économique. Demain, si le prétexte pour donner des aides aux entreprises, c'est la transition écologique, moi, ça me choque tout autant. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui va aller aider les boîtes privées. Je sais qu'en région lyonnaise, dans la vallée de la chimie, il y a déjà des discussions avec les industriels de la chimie qui sont les principaux pollueurs de la région pour avoir des aides à la reconversion. Moi, je ne suis pas d'accord. Ces grandes entreprises, elles accumulent des milliards de profits. Là, le CAC 40, ils ont fait 39 milliards d'euros de profits en 2020. Ils peuvent financer des installations plus écologiques. Ils peuvent financer le développement du fret au lieu de mettre des camions sur les routes. L'argent, ils l'ont. Le problème, c'est que eux, leurs décisions, ils les prennent que les yeux rivés sur leur porte-monnaie. Voilà.
La remise à niveau qui a été aménagée lors de la réunion avec la région Auvergne et celle de Rhône-Alpes, dans un contexte égalitaire d'infrastructures, quel progrès envisagez-vous aussi pour le DIWAR, milieu rural, justement, vis-à-vis des territoires urbains, notamment, on a déjà parlé du transport, mais il y a aussi l'éducation.
Oui, vous parlez de l'éducation, c'est effectivement le même problème que dans les transports, c'est qu'il y a des suppressions d'emplois dans l'éducation, des fermetures de classes, il y a des fermetures de bureaux de poste, et ça va dans le sens contraire des intérêts de la population. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'au contraire, il y aurait des emplois à créer. Le chômage, c'est un fléau aujourd'hui. Il y aurait des emplois à créer pour l'éducation, pour la poste, pour les transports. On pourrait répartir le travail. C'est-à-dire que la charge de travail, elle soit pas concentrée sur quelques-uns qui ont un emploi et qui s'usent la santé physiquement ou mentalement. Il y a des besoins. Le problème, c'est qu'il faudrait financer ces emplois. Et ça veut dire prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les groupes, dans les coffres forts de ces grands groupes qui s'enrichissent. J'ai déjà parlé des milliards de profits du CAC 40. Les milliardaires français, vous savez, ils sont passés de 39 à 42 et leur fortune, en pleine crise, en pleine pandémie, elle a augmenté de 68% en un an. Donc cet argent, il est le produit du travail de l'ensemble des travailleurs. Il devrait servir à répondre à nos besoins. Et c'est ça que vous pouvez dire en votant pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.
Dernière question, en plus, lutte ouvrière, que reste-t-il aujourd'hui du monde ouvrier en France? Et on a pu constater aussi une grande migration d'ouvriers vers l'extrême droite. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet?
Écoutez, moi je pense que justement pendant la pandémie, on a bien vu qui est-ce qui était utile et qui est-ce qui faisait tourner la société. C'est le monde ouvrier, c'est les caissiers des supermarchés, c'est les livreurs, c'est les ouvriers qui étaient dans les usines. C'est eux qui étaient en première ligne et qui ont pris tous les risques et qui n'ont pas eu grand-chose en retour. Et sur le vote à l'extrême droite, moi ce que j'ai envie de dire à ceux qui seraient tentés par ce vote-là, c'est qu'ils se tirent une balle dans le pied, Marine Le Pen, enfin, et puis ses représentants locaux, ils sont comme les autres, ils veulent aller à la mangeoire. Je les entends jamais dénoncer les profits du capitalisme, l'exploitation des travailleurs. En fait, ils sont d'accord avec ça. Et faut pas croire qu'ils arrivaient au pouvoir, ça serait comme les autres politiciens, mais peut-être avec encore plus de matraque contre les ouvriers.
Madame Adèle Kopf, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps donc pour votre liste Lutte ouvrière avec Faire entendre le camp des travailleurs.
Merci à vous pour l'invitation.
Et je vous souhaite une bonne soirée. Dernière information, est-ce que vous avez un site internet pour lire votre programme éventuellement?
Oui, bien sûr. www.lutte-ouvrière.org et après vous verrez qu'il y a une rubrique élections régionales et on peut aller dans toutes les régions.
Très bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
En représentation de la liste de la majorité présidentielle, nous avons Madame Célia Delavergne au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Madame Célia Delavergne, donc vous êtes candidate pour la région, vous êtes déjà députée de la Drôme. Et je voulais savoir votre engagement auprès de cette liste de la majorité présidentielle. Pour vous, quelle est votre optique?
Alors, j'ai la chance de pouvoir conduire la liste Auralpes dans la Drôme aux côtés de notre tête de liste régionale Bruno Bollel, qui rassemble un certain nombre de forces du centre, centre-gauche, centre-droit, de nombreux partis, mais aussi des personnes de la société civile. 60% des candidats de notre liste dans la Drôme n'ont jamais exercé de mandat et s'engagent en politique pour la première fois, bien souvent.
Je vous ai joint aussi un questionnaire qui concerne trois questions en rapport avec le territoire d'Iwa. Quel est l'intérêt des électeurs à voter pour votre liste de majorité présidentielle?
Avant tout, je voudrais insister sur le fait d'aller voter tout court. Je crois qu'on connaît mal les élections départementales et les élections régionales en France. On n'y voit pas qu'il s'agit de compétences du quotidien, qu'il s'agisse de social pour le département, de transport, d'environnement, de développement économique, donc d'emploi et de formation pour la région. Et donc d'abord, j'invite très largement les habitants du Diwa à aller voter. Et en ce qui concerne notre liste, nous souhaitons participer à la relance pour promouvoir et faire en sorte que la région aujourd'hui puisse être prospère après la crise que nous connaissons, mais le faire de manière équitable et fraternelle en prévoyant des mesures qui permettent de rééquilibrer, répartir la valeur qui pourrait être créée sur la région.
Voilà, et j'aborde les trois questions, à commencer par la première qui était quelle est votre politique de transport en liaison avec le territoire d'Iwa?
Alors c'est une politique à l'échelle de la région qui conjugue à la fois le renforcement de liaisons entre des axes structurants, donc là ça ne touche pas directement l'Iwa, mais ça touche les grandes capitales qui sont des capitales économiques qui doivent aujourd'hui drainer aussi de la création de valeur. Mais nous avons aussi, et c'est très important pour nous et nous y engageons déjà depuis quelques années, le fait de conforter nos petites lignes, et c'est le cas de celle de la vallée de la Drôme. J'ai travaillé déjà depuis 4 ans à m'assurer que la SNCF finance pour le renouvellement de la ligne les infrastructures nécessaires, y compris d'envisager les sujets de logistique aujourd'hui qui pourraient, via le ferroviaire, permettre de desservir nos territoires de manière plus écologique. Et enfin, je crois que ce qui est important, c'est de conforter nos gares. Et j'ai déjà travaillé, échangé plusieurs fois avec la municipalité, l'intercommunalité, sur la possibilité de transformer la gare de Die dans un lieu de destination qui regrouperait plusieurs activités qui permettraient de conforter le guichet et de le rendre aussi attractif et donc de s'en assurer de sa viabilité.
D'ailleurs, depuis quelques années, il existe une certaine grogne de la part des usagers de la SNCF, justement avec des services de moins en moins établis sur le territoire par rapport à la SNCF. Qu'en est-il, vous, de cette perspective de ces lignes de territoire? On peut aussi parler de l'étoile de Veynes, qui était aussi un outil de vecteur économique par le tourisme.
Alors, permettez-moi d'abord de dire, il faut effectivement, et vous avez entièrement raison, fiabiliser les horaires sur les lignes, mais aussi multiplier le nombre de trains dans la vallée. Je crois qu'on a pâti d'abord de la dégradation de l'infrastructure rail et ensuite d'une gestion industrielle par la SNCF des trains qui n'a pas permis d'assurer des horaires réguliers et fiables. Donc il faut évidemment d'abord ces travaux, ils vont permettre d'avoir l'infrastructure qui mettra en place l'organisation pour des trains à l'heure et plus fréquents, voire avec des nouveaux projets. Je sais qu'il en regorge dans le Diwa. J'ai notamment défendu au niveau du TIGA, territoire d'innovation de grande ambition qui a été financé par le gouvernement, la possibilité d'accélérer le nombre de trains et de créer des stations intermodales, c'est-à-dire qui permettent de conjuguer un déplacement en train avec des voitures en autopartage ou avec des vélos. Ce sujet du déplacement dans la vallée de la Drôme et dans le Diwa, il est souvent la conjugaison de plusieurs modes de transport. Il faut que nous, élus, nous facilitions le transfert de l'un à l'autre.
Deuxième question, je vais passer ensuite à l'environnement. Qu'en est-il de la reconversion en agriculture bio par rapport à la région et la préservation des zones naturelles? Quelles actions vous allez mener pour ce domaine?
Alors il y a ce qui concerne d'abord l'agriculture, et j'y suis très engagée depuis le début de mon mandat, en particulier sur la conversion en bio. On est dans la vallée de la Drôme plutôt en avance par rapport à la moyenne française, mais il y a encore des exploitations qui peuvent être accompagnées par des dispositifs qui sont nationaux et des dispositifs régionaux. Et je crois que nous devons tirer les filières, en particulier nous avons un engagement dans les lycées pour que 100% des produits que nous aurons dans nos cantines à la fin du mandat soit issu de circuits courts et 50% des filières d'agriculture biologique. Ce qui veut dire en réalité 50% d'agriculture biologique locale, ce qui est très important pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, nous avons un programme de 2 milliards d'euros qui s'appellera Résilience et qui va être construit avec les associations environnementales et les organisations professionnelles pour enclencher la transition, l'accélération de la transition écologique de nos territoires, et le DIWA devra en profiter. Il y a une partie qui concernera par exemple la reconversion de friches pour les retransformer en terres agricoles, et il y aura un certain nombre de dispositifs pour accompagner l'agriculture biologique. Et je voudrais rajouter un point qui est important, qui fait partie des débats que nous avons eus dans la Drôme. Nous pensons que nous pouvons tenir, peut-être dans le DIWA et à minima dans la Drôme, le centre national de référence au métier de la transition écologique, parce que c'est à l'image de notre territoire et que nous avons de nombreux acteurs qui se sont manifestés pour le faire.
Je voulais savoir, par rapport à l'Europe, qui finance aussi une transition biologique de l'agriculture avec une enveloppe de 5 milliards pour la France, pourquoi le secteur bio actuel se retrouve avec une enveloppe de 400 millions, c'est-à-dire beaucoup, je crois que c'est un 27e, hein, il me semble. Et il y a aussi une cessation aussi d'aide pour les agriculteurs qui sont bio, déjà installés, et ce qui pourrait aussi peut-être remettre en question leur engagement, et pour certains agriculteurs néo-bio, de retourner donc à l'agriculture conventionnelle, car certainement plus rentable.
Alors, ce n'est absolument pas ce que nous voulons, et je reste persuadée que l'agriculture conventionnelle aujourd'hui est moins rentable que l'agriculture biologique. Il y avait au moment du lancement de la filière des aides à la conversion qui existent encore, qui sont démultipliées dans le cadre de la PAC, avec une augmentation d'ailleurs du budget en ce sens, et il y avait des aides au maintien. Ces aides au maintien, elles étaient intervenues à un moment où les filières avaient du mal à vivre de leur métier. On sait aujourd'hui que la mention agriculture biologique, la transformation de nos exploitations, elle leur permet un meilleur revenu et qui permet, sans ces aides au maintien, en principe de vivre. Moi, j'invite toute exploitation qui n'arrive plus à vivre de la vente de ses produits en bio à se tourner vers moi pour que nous analysions les raisons. Je tiens à rajouter que l'aide au maintien a été supprimée, mais nous avons introduit un crédit d'impôt bio pour les exploitations à hauteur de 3 500 € annuels qui correspond et qui est versable à toute exploitation qui aujourd'hui est en bio. Donc nous avons quand même maintenu un certain niveau d'aide. Mais l'argent qui permet la conversion du bio, cet argent public, nous l'avons orienté en priorité vers la conversion.
À l'image de la remise à niveau des réaménagements opérés en Auvergne lors de l'union avec la région Rhône-Alpes, est-ce qu'il y a, dans un contexte égalitaire, des progrès que vous envisageriez pour le DIWA, c'est-à-dire en comparaison avec les territoires urbains et le milieu rural?
Vous savez que je suis très engagée pour la ruralité déjà depuis 4 ans, donc c'est une question que je travaille de fond. Je crois qu'on sort de plusieurs décennies de métropolisation avec de nombreux financements qui sont allés vers nos villes, probablement avec des vertus en termes de développement économique et d'emploi qu'il faut évidemment analyser, mais qui ont aussi touché leurs limites et auxquelles je ne crois plus en l'état. Et donc il y a un travail qui a été fait, un engagement politique pour revitaliser des villes d'abord de taille moyenne, et c'est le cas du programme Action Cœur de Ville à Montélimar ou à Romans, et ensuite les petites villes de demain. Et je suis la première à être allée défendre la candidature de Die, comme celle de Cré, de Nyons, de Dieulfi, de Saint-Jean-Royan, au niveau national, pour obtenir le fait d'être dans ce programme qui permet de la revitalisation de centre-ville, des aménagements des espaces publics pour les rendre plus attractifs, des rénovations de logements avec l'enjeu de la transition écologique et de l'isolation. Et ce que nous nous engageons à faire au niveau de la région, c'est de abonder très largement ce programme de petites villes de demain pour refaire de Die notamment décentralisées, de plus en plus attractives, rénovées et capables donc d'attirer des foyers, en particulier des familles. Autre chose qui me semble important, ces villes, elles ont besoin aussi de garder des jeunes qui grandissent. Et on voit bien d'ailleurs que au collège ou au lycée à Die, on a des jeunes qui ont envie de rester et peut-être quelques formations qui le permettent, mais pas suffisamment. Et donc il nous faut deux outils, me semble-t-il. Un qui semble assez évident, qui est celui du campus connecté, qui permet de suivre des formations dans un local à Die, mais des formations qui sont en partie faites à distance, mais accompagnées par quelqu'un sur Die. Et puis, nous proposons à Die ou à Nyon, selon ce que les élus voudront, puisque c'est évidemment à eux de décider, de créer une école de la deuxième chance, comme il en existe dans certaines villes, et qui permettent à des publics en reconversion ou qui souhaitent se relancer dans des études après des années de travail, de pouvoir trouver la formation continue qui leur permettra d'exercer un nouveau métier.
Voilà. Pour les auditeurs qui souhaiteraient lire votre programme, quel est le moyen, par Internet par exemple ?
Bien sûr, bah, vous avez le site auralp.fr, auralp.fr, une rubrique programme, une rubrique qui présente les différents candidats dans chaque département et qui vous permettra de mieux nous connaître et de voir nos engagements.
Madame de Lavergne, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci à vous et merci beaucoup d'organiser ces débats qui sont essentiels pour notre démocratie et pour inciter au vote qui est à la fois un droit et un devoir dans notre République.
Nous recevons Monsieur Olivier Crène. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Crène, vous êtes candidat pour la liste La France Insoumise. Et pour cela, vous êtes ici dans notre studio. Je vous ai adressé en amont trois questions en rapport avec le territoire du Diois. Pour commencer, donc, je vais vous demander, Olivier Crène, de vous présenter aux auditeurs.
Eh bien, très brièvement, je m'appelle Olivier Crène, j'ai 40 ans, je suis père de famille, porteur de projets associatifs. Le dernier en date était la ferme de Main Verte à Saint-Vallier, ferme en permaculture et d'éducation populaire. Je fais pas mal d'actions aussi, je suis d'ailleurs passé plusieurs fois sur Radio Diwa, notamment pour des actions à Calais dans la jungle en 2015, par rapport à Roibon et dernièrement par rapport à la campagne glyphosate. Donc voilà, et donc je suis candidat et tête de liste pour la section Drôme sur la liste Ensemble pour notre région, qui est une alliance entre le Parti communiste français, Génération Climat, qui est le parti des jeunes grévistes pour le climat qui, passé 18 ans, ont décidé de monter leur parti, Ensemble, et la France Insoumise qui m'a donc proposé cette tête de liste.
Une première question avant d'aborder les trois questions. La France Insoumise, pourquoi ce terme et insoumise à quoi ?
C'est une bonne question. Je crois que l'insoumission aujourd'hui représente avant tout une philosophie de pensée. Il n'est pas question évidemment d'être dans la rébellion frontale. Moi, je suis faucheur volontaire, donc voilà, quand on parle d'insoumission, là on y est un peu plus. On est dans la désobéissance civile, on est dans certaines choses. L'insoumission, c'est l'insoumission de la pensée, en tout cas pour la France insoumise. On va chercher quelque chose, je crois, qui est de dire non, on n'accepte pas le néolibéralisme. On croit à l'alternance, on croit à la possibilité de remailler la démocratie. Et voilà, l'insoumission, elle est là.
D'autant que votre engagement est pour le partage et la solidarité.
Tout à fait, mais pas que. On pense en fait qu'en bifurquant de manière écologique et en replanifiant une véritable construction en fait de société basée sur effectivement l'égalité, mais surtout basée sur un nivelage entre les différentes couches sociales. C'est pour ça que par exemple sur le programme national, on est sur 14 couches d'impôts, mais ça se répercute ailleurs aussi.
On peut aborder donc ces trois questions.
Bien
alors,
entendu, oui.
Je rappelle la première. Quelle est votre politique vis-à-vis du transport en liaison avec le territoire Diwa ?
Je pense que là, on est vraiment sur un abandon des territoires. Et ce n'est pas que le Diwa. Hein. Je me balade beaucoup en Drôme. J'ai fait aussi pas mal de choses depuis le début de la campagne, donc depuis plusieurs mois. Il se trouve que là, aujourd'hui, et d'autant plus, là, on le voit avec les travaux là, qui sont faits sur la gare, on est sur quelque chose de vraiment terrible. Pour tous ceux qui voudraient avoir la chance de pouvoir aller chercher du travail un peu plus loin, parce que c'est pas un bassin où il y a de l'emploi, il y a du tourisme, mais il n'y a pas énormément d'emplois. Ne serait-ce que aussi parce qu'il y a des logements complètement vides et que bah, il y a des familles, par exemple, qui peuvent être des familles recomposées ou décomposées, des mamans seules qui n'ont pas forcément d'accès au logement, plein de choses comme ça en fait qui sont assez compliquées et qui sont en lien directement avec le transport. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui habiterait dans les hauts des montagnes, je vais penser à Luc ou voilà des endroits comme ça, là, au niveau de la distribution des transports. On est complètement largué. Pour moi, il y a un terme qui est simple, en fait, dans le Diwa par rapport au transport. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Il y a tout à redessiner. D'autant que là, Keolis, si j'ai bien compris, viendrait avoir une réorganisation des planifications de bus. Et que malheureusement, ce n'est pas vraiment planifié, selon moi. Voilà.
On parle des chemins de fer, hein, on est d'accord.
Bien sûr, mais les chemins de fer. Alors, il y a quelque chose qui est une info. Alors, je ne pense pas que les gens soient au courant. Nous, on était avec la CGT, cheminot, à Montélimar, avec Cécile Kuckermann, ma tête de liste régionale. On a discuté avec eux. Ils nous ont parlé de 70 emplois qui vont gicler. Comment ils vont gicler? C'est parce que, par exemple, l'aiguille de Die qui aurait pu servir à remettre du fret en gare de Die a été démontée. Pourquoi elle a été démontée? Parce que ça va être électronisé et géré en gare de Lyon. Donc tout va être centralisé, ce qui veut dire qu'on est encore sur de la déshumanisation. Et là, on rejoint de manière un peu plus métaphorique notre différence entre, par exemple, la liste LR de Laurent Wauquiez, qui est simple en fait. La liste LR de Laurent Wauquiez, c'est des caméras. Nous, on veut de l'humain. Voilà. Et bien là, c'est pareil. On veut que les cheminots, les services publics ne disparaissent pas. Et ça commence par le train, parce que pour une région comme dit, c'est la base. C'est la base.
Voilà. Une autre chose, le transport également aussi sur les routes. Est-ce que l'on peut envisager des navettes qui desservent le Haut-Diwa avec la vallée de Die, par exemple, ou d'autres directions? Est-ce que ça, c'est aussi une possibilité que vous envisageriez?
Comme je le dis, moi, il faut travailler avec les gens du territoire. C'est les gens qui savent. Moi, quelque part, tant que je n'ai pas fait une étude directe avec les gens, avec des réunions publiques où on écoute les gens, parce que c'est facile de faire des réunions publiques pour faire des discours. Nous, la base d'une réunion publique, c'est d'ailleurs ce qu'on organise, nous, dans les meetings, justement, de la base des petites... sur la base des petites navettes, en fait, qui sont la base de ça. Nous, ce que je disais, c'est que voilà... La réunion publique, c'est la base, en fait. La consultation. Alors aujourd'hui, on prend des cabinets d'experts, beaucoup. Ça, c'est le cas de Wauquiez, c'est le cas du PS aussi en son temps. Et on le voit d'ailleurs dans les municipalités et au département. On est sur de la... Ils vont prendre une agence. Bon, une agence qui fait quoi? Qui passe 1000 coups de téléphone avec une agence de téléconseillers qui fait un truc. C'est pas ça, pour moi, la consultation publique. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, hein, en fait, vraiment, à tous les niveaux, il faut de la consultation, il faut un retour à la démocratie. Et pour ça, il faut effectivement aller voir les gens, les demandes, et faire quelque chose d'égalitaire sur le maillage transport, bien sûr.
Eh bien, justement, c'est aussi l'occasion pour ces partages de paroles de parler aussi de l'agriculture, l'environnement aussi, la reconversion donc en agriculture bio et la préservation des zones naturelles. Tout ça, ce sont des facteurs importants pour le Diwa. Qu'est-ce que vous proposez vous-même?
Alors nous, c'est assez simple en fait. Déjà, on propose de conditionner les aides. Alors ça, c'est aussi valable dans le social et dans l'écologie. La conditionnalité des aides et des subventions, mais aussi des commandes et des appels d'offres qui sont faits, c'est quelque chose qui doit se faire sous des conditions très strictes. C'est-à-dire à partir du moment où on ne respecte pas, où on propose d'imperméabiliser des sols de manière complètement aveugle, notamment sur les routes, notamment sur plein de choses. En fait, il y a un gros problème là-dessus. La préservation des sols, elle passe par arrêter de donner du fric à ceux qui les bétonnent, en fait. Déjà, on sait très bien que la majorité des gens... on va prendre l'exemple d'un camarade de la Confédération Paysanne qui est ici et qui me racontait le ruisseau de son enfance qui a été remplacé par la déchetterie. Alors en plus, les déchets, c'est une compétence de la région aussi, mais on y reviendra tout à l'heure. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on utilise mal, très très mal, l'espace. On le voit sur le logement, on le voit sur plein de choses. Pourtant, il y a de l'argent. Hein. La DREAL a énormément d'argent à distribuer là-dessus. On est quand même sur 4 milliards d'euros actuellement sur la région. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose à faire sur la conditionnalité de ces aides pour les redistribuer. Sur la conversion bio, pour rentrer directement sur le sujet, on a cette idée de mailler exactement de la même manière et de travailler à un gros maillage de l'alimentation, comme on dit, de la fourche à la fourchette dans les milieux militants, c'est-à-dire de créer des régies alimentaires. Des régies alimentaires, donc ça c'est un maillage qu'on fait aussi sur le programme départemental. Je sais que vous avez auditionné aussi nos candidats et qu'il y a sur la départementale à Die. Et on a un même maillage, on a un même programme en fin de compte, parce qu'on pense qu'il est important que toutes les collectivités travaillent ensemble. Et pour nous c'est primordial.
Et puis pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, lors de cette réunion avec l'Auvergne, il y a eu, comment dire, une remise à niveau des réaménagements dans l'Auvergne, qui était très en retard par rapport aux infrastructures de la région Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut considérer cette même perspective pour le Diwa, justement avec cette zone abandonnée en quelque sorte?
Ouais, il y a un vrai abandon des services publics. Et ça se voit, hein. Moi j'en parlais avec Assa Traoré, qui est porteuse du qui est la sœur d'Adama Traoré, qui est quelqu'un qui travaille dans les cités à Paris et qui nous dit, ben là, elle commence à travailler dans les campagnes parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y a eu beaucoup d'appels sur l'abandon des services publics et l'abandon de la jeunesse et l'oubli de la jeunesse. Et je crois qu'il y a un vrai lien à faire avec les gens des cités dans les grandes villes. On le voit à Fombarlette avec 80% à Valence, hein, 80% d'abstention sur les municipalités. Et M. D'Aragon, qui est donc mon homologue LR cette élection régionale, hein, le cumul des mandats ne les effraie pas, ces gens-là. Il faut être sûr qu'aujourd'hui, en fait, c'est le dégoût. Le dégoût de ceux qui ont cru à Hollande quand il est arrivé en 2012 et qui se sont rendus compte que on est dans le néolibéralisme. C'est la peur, c'est l'abstention, le premier parti de France aujourd'hui. Et c'est l'abstention parce qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent plus écoutés. Et encore une fois, je reviens là-dessus, la vérité, c'est d'organiser, d'être sur le terrain. C'est pas le tout de prendre un mandat. Nous, ce qu'on veut, c'est être sur le terrain avec les gens, les écouter et faire remonter. C'est pour ça qu'on va mettre en place des commissions citoyennes de la même manière, mais auxquels on va incorporer des votes dans le budget, c'est-à-dire que les commissions auront lieu juste avant le budget, de manière à ce qu'on puisse travailler avec les gens, avec les locaux, et faire en permanence remonter, de la même manière qu'on a écrit notre programme. Notre programme a été écrit sur un wiki, sur Internet, avec des propositions des gens, en lien avec les gens. Il a été écrit lors des réunions publiques qu'on organise, en participatif avec les gens. Notre programme est un programme populaire, on est juste porteur. Moi, je le répète, c'est ma première élection, c'est la première fois que je me présente à ça. Je suis très respectueux des gens de la France Insoumise, du Parti Communiste, qui m'ont donné la possibilité et de faire rentrer les copains de Génération Climat, qui étaient des jeunes que je connais depuis qu'ils ont commencé, mais aussi les gens d'Ensemble, parce que ces gens-là, en fait, me laissent une chance aujourd'hui de pouvoir exprimer des choses que je pense qui sont des actions... Enfin, on est libre, en fait. Il y a une vraie liberté d'expression, il y a une vraie liberté d'écriture du programme. Tout comme nous, si on arrive à avoir le pouvoir, parce que c'est ce qu'on veut, ce pouvoir-là, de pouvoir être les décisionnaires et de pouvoir retranscrire la volonté de la population. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand on va s'adresser à nos concurrents, par exemple, ou aux gens qui sont élus, même à la municipalité de Die aujourd'hui, il y a un mur, en fait, entre eux et la population. Et ce mur-là, nous, on veut le casser. On veut faire rentrer les gens dans les instances parce que c'est aux gens d'écrire leur vie. Et qu'il suffit de ce pouvoir trop voleur de nos propres libertés.
Pour terminer, il y a des coordonnées pour découvrir votre programme et puis aussi les rendez-vous que vous proposez dans cette campagne, peut-être ?
Ouais, tout à fait. Alors, on est vraiment visible sur la page Ensemble pour notre région.fr, donc page internet. On a aussi des pages sur Facebook, plusieurs, notamment celle de la Drôme qui s'appelle La Drôme avec Cécile Kukierman. Ensemble pour notre région. Et il y a sa page à elle. Donc, il y en a une par département, puisqu'on a tous une liberté vraiment. Enfin, c'est ça, moi, que j'ai apprécié vraiment dans cette campagne et dans cette opportunité de la mener. C'est la liberté qui nous a été laissée d'auditionner, d'entendre et de notifier. Par exemple, je vais revenir là-dessus. On a rencontré les copains de la Confédération Paysanne il n'y a pas très longtemps. Bah, j'ai incorporé tous leurs points dedans. Il y a eu un truc qui s'appelle Démocratie sans filtre qui a été fait à Saint-Péret, où en fait des gens se sont réunis en entre guillemets off de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été une belle moquerie, hein, comme pour le reste de M. Macron. Nous on a incorporé tous les points dans le programme et ensuite il y a un comité électoral qui se rencontre. Comité de campagne et d'écriture programmatique qui viennent prendre chaque point, qui regardent si ça correspond aux compétences et ensuite on les incorpore ou pas. Et voilà.
Olivier Crène, je vous remercie d'être venu sur RDIWA pour nous présenter votre candidature aux élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de venir chez vous.
Au revoir.
Au revoir.